Chapitre 9e, les deux prisonniers. Ce que je voulais expliquer à plus tard Martin Numa à son second, c'était surtout surprendre un peu la maison avant qu'on ait pu la préparer à ma venue. Vous avez réussi, chef. Au-delà de mes espérances, j'ai, si j'ose le dire, surpris la pie au nid. Mais comment voulez-vous, chef, que ces gens, même vous connaissant très bien, puissent redouter votre venue quand ils ont tout préparé pour qu'à 7 heures vous soyez défunt, mort, assassiné? Martin Numa se mit à sourire. Il est certain que si le coup vient de chez eux, et je n'en puis douter, j'ai dû faire dans cette maison l'effet d'un bolide, d'une bombe. Le commandant, au sens figuré et au sens véritable du mot, n'était pas en état de me recevoir. Il ne vous a admis chez lui que par force, et pour bien voir si réellement c'était vous, c'est possible. Pour s'assurer que c'était bien vous, et dehors bien moi ou Philippe. Pour enfin acquérir cette conviction par ses propres yeux que ce n'était ni vous ni moi, entruqué, formé par d'autres personnages qui se trouvaient là, pour donner le change, faire douter de la réalité, faire croire que le crime n'avait pas réussi. Martin Numa réfléchit un moment puis reprit « Je crois qu'à l'heure qu'il est, ces gens ne connaissent pas encore le sort réservé à leurs deux hardis complices. Oui, il est certain que les deux hommes qui faisaient le guet et que l'arrivée intempestive du brigadier et de son subordonné Marollet ont dérangé dans leur occupation, il est certain, dis-je, que ces deux hommes à qui l'infortuné Courville a donné la chasse ont dû faire dès la première heure leur rapport à leur chef. Mais ils ne savent pas grand-chose. En effet, mais ce qu'ils savent est déjà bien suffisant. Ils ont dit que deux gendarmes étaient passés sur la route quand leurs camarades se trouvaient dans la maison. Eux, les veilleurs, eux qui faisaient le guet, ont donné l'alarme, prévenu les camarades en train d'opérer, les ont avertis du danger par les coups de sifflet convenus. Nous les avons entendus. Et nos assassins aussi, les malheureux. Quels éclairs de rage et de désolation ont lui dans leurs yeux, à ce moment. Oui, chef, j'ai vu cela. C'était vraiment impressionnant. Quelle scène du plus haut dramatique. Des gens qu'on détient prisonniers et qui entendent au dehors l'avis de leurs camarades leur disant de se méfier, de se tenir sur leur garde, de se sauver. Oui, il y a quelque chose d'épouvantable, de tragique. Martin Numa reprit. Donc, les hommes qui faisaient le guet devant la porte ne doivent pas en savoir beaucoup plus sur toute cette aventure. Les gendarmes sont arrivés. Eux, ils ont donné le signal de fuite. Ils se sont sauvés comme sans doute il était dans leurs instructions de le faire. Et ils ont laissé leurs camarades se débrouiller tout seuls, se tirer d'affaires comme ils le pourraient. Prosper interrompit son chef. Jamais cela ne sera arrivé chez nous, non. Jamais deux de nos hommes faisant le guet, étant surpris par des ennemis, jamais deux de nos hommes ne se seraient sauvés, échappés, laissant ainsi deux camarades en danger. Ces hommes ont eu peur, ils ont perdu la tête, et sur le premier moment, ils n'ont pensé qu'à se sauver, qu'à fuir. Puis Martin Numa ajouta. Donc ces fuyards, ayant abandonné leurs malheureux camarades, ont filé sur leurs vélos à toutes jambes, distançant et rapidement les braves chevaux des bons gendarmes. Ce n'était pas difficile. Selon moi, dit le roi des détectives, et je ne pense pas me tromper beaucoup, ces bandits, après leur fuite, ont dû courir jusqu'à Melun, suivis de près d'ailleurs par Courville. Pour bien comprendre cette opinion de Martin Numa, il faut dire qu'à ce moment, le roi des détectives ne connaissait pas encore mon sort lamentable. Martin Numa et Prosper étaient partis de très bonne heure de la villa. Martin Numa, et cela est très facilement compréhensible, avait tenu précisément à arriver de très bonne heure chez le commandant pour se rendre compte de l'effet produit par les événements de cette nuit, pour savoir aussi ce que le commandant connaissait du drame qui venait de se dérouler. Voilà pourquoi Martin Numa, en parlant à Prosper, émettait cette opinion que j'avais donné plus longuement la chasse aux deux bandits, et que j'avais pu être entraîné très loin derrière eux. Il ignorait encore tout de la magnifique pelle que j'avais ramassée sur la route. Ce ne fut qu'à son retour de Fontainebleau par le messager du commissaire central de Melun arrivé à la villa qu'il eut connaissance de mon misérable sort. Il pouvait donc supposer, alors que j'étais dans le lit de l'infirmerie de la caserne de gendarmerie, que je courais après les bandits. Cette parenthèse nécessaire pour expliquer la phrase de mon ami Martin Numa permet de reprendre le récit. « Je ne pense pas, fit donc Martin Numa, que ces bandits aient pu voir autre chose de ce qui s'est passé après cette venue des gendarmes. Pour voir plus qu'ils n'ont vu, il aurait fallu pénétrer dans la maison. Là encore, il aurait fallu arriver jusqu'aux prisonniers. Et cela, conclut Prosper, cela eût été tellement dangereux pour celui qui l'aurait tenté que personne n'aurait osé l'entreprendre. Par conséquent, nos ennemis ignorent encore si les hommes qui sont entrés dans la villa sont prisonniers ou s'ils ont pu prendre la fuite au signal donné par leurs camarades.
Oui, chef.
Quand ils ne vont pas voir rentrer leurs camarades, que l'inquiétude commencera à les gagner, ils enverront des espions pour tâcher de recueillir des renseignements et connaître leur sort.
Cependant, Martin Numa, s'il avait gagné le premier point dans cette lutte nouvelle, se trouvait quelque peu embarrassé de ses prisonniers. En effet, il était difficile de les faire disparaître. Cependant, il ne pouvait les garder indéfiniment dans la villa. Il dit à Prosper « Il faut redouter un coup de main, une attaque en force, quelque chose enfin que nous eussions nous-mêmes tenté dans des circonstances pareilles. Il est certain que ces hommes, s'ils continuent à montrer le courage et l'audace dont ils ont fait preuve jusqu'à présent, devront sans plus tarder tenter un grand coup pour délivrer leurs camarades. Ils ne peuvent se dispenser de le faire, pour empêcher ces malheureux de subir les interrogatoires que nous ne pourrons nous priver de leur infliger. C'est évident. Or, ces hommes, nos prisonniers, doivent détenir le secret de bien des choses importantes. Les laisser en nos mains, c'est nous donner beau jeu pour plus tard. »
Martin Numa et Prosper revinrent donc à la villa. Ils racontèrent à leurs hôtes charmants leur promenade matinale à Fontainebleau, offrirent à l'hôtesse des fruits nouveaux et frais qu'ils prétendaient avoir été cherchés exprès pour elle. Puis, comme chacun était complètement libre de ses mouvements dans la maison et maître absolu dans son appartement, Martin Numa et Prosper montèrent à leur chambre sous prétexte d'aller préparer leur courrier. Ils trouvèrent les pauvres diables dans le même état, mais fatigués et vraiment misérables. Ces quelques heures assis, attachés ainsi sans pouvoir bouger, cette nuit d'angoisse, la rage concentrée, l'anxiété de l'avenir, les avaient abattus. Ils n'avaient plus l'envie ni la force de recommencer la lutte. C'étaient des hommes accablés, dont les yeux, loin d'inspirer la terreur, suscitaient la pitié. Ces malheureux n'étaient plus en ce moment capables de la moindre tentative d'assassinat. Martin Numa avait ouvert la croisée, et le jour clair était entré dans la chambre, montrant encore plus misérables ces pauvres diables. À leurs membres gonflés par les liens, à leurs habits fripés, on voyait que les deux prisonniers avaient essayé de rompre leurs entraves. Ils avaient tenté l'impossible. Dans la lutte pour la liberté, ils avaient roulé et maintenant, leurs liens étaient si savamment combinés, ils ne pouvaient plus se relever. Ils demeuraient à terre, couchés et dans une position qui les faisait beaucoup souffrir. Martin Numa leur dit « Il ne fallait pas chercher à vous évader. Vous auriez dû savoir que quand je tiens quelqu'un, je ne suis pas homme à lui permettre de m'échapper. » Il le releva comme s'il eût fait d'un sac qui serait renversé, et il les remit assis sur leur séant dos à dos. « Voyons, leur dit-il encore, vous devez avoir faim, avoir soif. Vous allez me promettre de ne pas crier, de ne pas chercher à donner l'alarme, et je déferai vos bâillons. Je vous donnerai à boire et à manger. Voulez-vous le promettre ?»
Les deux misérables pouvaient incliner la tête. Ils firent ce signe d'assentiment. On leur eût donné n'importe quoi qu'en ce moment ils eussent accepté. Martin Numa lui-même défit les bâillons. Les deux hommes respirèrent mieux. Mais le premier mot qui de leur bouche sortit fut une injure, une insulte à l'adresse du roi des détectives.
« Bon, bon, » fit Martin Numa, « allez-y, insultez-moi, ça n'a pas de conséquence. Ça m'est absolument égal. Ce que je vous demande, c'est de ne pas crier, de ne pas appeler. »
Et comme dans les yeux des prisonniers il vit une lueur dont il devina la signification, il s'empressa d'ajouter
« Non, non, ce n'est pas à cause de ce que vous croyez que je vous demande cela, non. Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'on entende vos cris du dehors. Parce que votre appel pourrait arriver jusqu'à vos camarades, leur indiquer le lieu de votre détention et les engager à essayer de vous reprendre. Non, non, si cela vous plaît, je puis vous conduire jusqu'à la croisée. Je puis vous montrer le dehors, vous faire voir les environs. Vous auriez cette certitude que vos amis ne sont pas là. » Il ajouta, « La villa est entourée non pas par vos amis en fuite, mais par des hommes à moi. Je vous demande de ne pas crier parce que cela dérangerait inutilement les hôtes charmants chez qui nous nous trouvons. » Puis il conclut, « Maintenant, si vous voulez être raisonnable, nous allons vous donner de quoi vous restaurer. »
« c'est bon, » dirent les prisonniers, « on n'ira rien, mais donnez-nous à boire. »
Prosper et Martin Numa alors versèrent à boire aux prisonniers, et avec précaution, doucement, ils portèrent le verre à leurs lèvres. Les malheureux avalèrent avec un bonheur qui éclaira aussitôt leur figure.
« Encore, » dirent-ils, « encore. »
On leur donna encore à boire. Ces pauvres diables éprouvèrent un bien-être qu'ils n'avaient pas la force de dissimuler. Martin Numa, dont le cœur était compatissant, leur dit alors, « Écoutez, si vous continuez à être raisonnable,
je ferai encore quelque chose pour vous. Évidemment, vous souffrez beaucoup d'être attaché comme ça.
Oui, beaucoup.
Je m'en doute. Maintenant, quand vous pratiquerez sur un prisonnier une ligature pareille, vous saurez ce qu'il doit endurer. Vous aurez pitié, car c'est aussi dans vos principes de lier fortement les prisonniers.
Non, jamais,
voulut protester un des bandits. Alors dites-moi à quoi servent toutes ces cordes qui sont dans le grenier du commandant. Les deux hommes tournèrent la tête vers Martin Numa. Dans leurs yeux se lut le plus grand étonnement, la plus profonde surprise et l'anxiété la plus intense. Très calme, de sa voix froide et chaque mot semblant aigu, Martin Numa reprit lentement.
« Oui, à quoi servent toutes ces cordes, ces chaînes de fer, ce carcan de galériens qui encombre le grenier? À quoi sert également cette armoire à supplice, cette façon d'horloge à torture ?»
L'émotion des prisonniers allait grandissant.
« Ah, l'on est bien armé chez vous. Et vraiment, il faut plaindre le malheureux qui tombe entre vos mains.
J'imagine que dans ces cordes, que dans cette chaîne de fer, attachée au poteau de supplice, il doit passer un bien méchant quart d'heure. Dans les raffinements de cruauté que la science met à votre odieux service, vous devez savoir arracher le secret le plus fermé et forcer la volonté la plus résolue. Vous êtes des bandits impitoyables. »
Martin Numa ajouta.
On pouvait croire que cette race de bandits était à jamais exterminée. On pouvait croire qu'il n'existait plus que dans l'imagination des romanciers, que cette honte était maintenant épargnée à l'humanité d'avoir des hommes tels que ça. Je vois que non. Instruction, progrès, civilisation sont encore de vains mots. Le crime ne diminue pas, au contraire, il se perfectionne.
Il demanda.
Et cette caisse, fragile, chocolat, à quoi sert-elle? Pourquoi? Pour qui ces cartouches de dynamite?
Les prisonniers étaient atterrés.
Martin Numa garda un moment le silence, puis il reprit ensuite comme répondant à leurs questions.
« Oui, je suis allé chez le commandant, vous le voyez. Vous pouvez vous rendre compte que je ne parle qu'après avoir vu moi-même, de mes propres yeux, et j'y vois clair. J'ai vu chez le commandant des choses à mon avis plus intéressantes que les quelques croûtes qu'il a achetées sur les quais ou chez les marchands de bric-à-brac, où je les avais déjà vues.
Oui, j'ai vu là des choses bien curieuses, des cheminées bien aménagées. Pour le moment où ça chauffe, sans qu'on y fasse du feu, vous me comprenez, par où l'on file. J'ai vu des moustaches qui poussent tout de suite, des bonnes qui vont au marché et n'achètent rien, et pas non à des commères, mais à des compères. J'ai vu autre chose encore, que je n'ai pas besoin de rappeler ici. »
Et il conclut. « Je ne vous dis d'ailleurs tout cela que pour vous montrer que vous êtes bien en ma possession, bien mes prisonniers, et que je vous tiens, et que malgré votre commandant, je suis toujours maître de la situation. »
À bon entendeur, salut !